Allô, allô, ici Antoine Guillot pour ce cinquième numéro de Comment ça va le monde cette saison sur la question de l'énergie et de sa gestion, toujours en compagnie de Valentin Vinci. Valentin, bonjour.
Bonjour Antoine.
On va utiliser ce numéro pour se pencher sur la question du nucléaire. Donc, on entend évidemment énormément, enfin évidemment, on va dire pourquoi évidemment, mais on entend parler, c'est un débat et c'est assez houleux depuis toujours ou presque en France. Mais déjà, on va commencer par définir ce qui est le nucléaire et du coup l'électricité produite au nucléaire.
Alors, le nucléaire, ça se réfère en général à une façon de produire de l'énergie, généralement par fission nucléaire, qui est un moyen de faire bouillir de l'eau et avec lequel on peut produire de la vapeur en grande quantité et faire tourner des turbines, entraîner des turbines et faire de l'électricité avec ça. Donc l'électronucléaire, on va probablement parler que d'électronucléaire aujourd'hui, c'est un moyen par la fission de produire de l'électricité.
Quels sont les avantages de cette énergie-là, de ce mode de production?
Alors, il y a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est une énergie qui est pilotable. Donc, c'est une énergie sur laquelle, enfin, c'est une façon de produire de l'électricité qui est pilotable. C'est-à-dire qu'on a un contrôle relativement grand sur le fait qu'on en produise beaucoup, un peu, on peut se mettre à 10% de la capacité, non pas 10%, on peut se mettre à 20% de la capacité d'une centrale, 60, 50 selon les besoins. On a le contrôle là-dessus.
Oui, parce qu'on rappelle que, comme on l'a déjà expliqué précédemment, que la quantité d'électricité produite doit être égale à la quantité d'électricité consommée à un instant T.
Voilà.
Parce qu'on ne sait pas la stocker.
Pour la stabilité du réseau.
Voilà. Donc, il faut, dans le mix énergétique, il faut une source qu'on peut contrôler un peu comme on veut, quoi, pour que ce soit équilibré.
Pour garder un réseau stable, fonctionnel, il est important de produire exactement autant d'énergie qu'on en consomme. Soit on gère l'énergie qu'on consomme, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour en consommer exactement ce qu'on produit, soit on gère l'énergie qu'on produit, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour en produire exactement ce qu'on consomme.
Donc le nucléaire apporte ça, et donc apporte un mode de production constant. Contrairement, on développera ça dans d'autres émissions sur les énergies dites vertes, mais contrairement à l'éolien qui fonctionne que quand il y a du vent, ou au solaire qui fonctionne que quand il y a du soleil.
C'est une énergie qui ne dépend pas ou peu des conditions météo.
Et pour autant, donc on parle d'indépendance énergétique, notamment en France, grâce au nucléaire, et pour autant, l'uranium qu'on fait brûler dans ces centrales, il vient d'où?
Alors c'est de l'uranium qu'on extrait de la croûte terrestre dans des pays qui ont des réserves d'uranium. Donc il faut des réserves d'uranium et on va dire en général c'est des pays plutôt grands et on extrait dans un endroit où c'est pas trop peuplé. C'est pas terrible pour l'environnement qui est autour et sanitairement c'est pas top. Donc effectivement, d'un point de vue de l'indépendance énergétique, on a besoin de ce combustible.
On a besoin d'être copains avec les Australiens et les Canadiens pour pouvoir leur en acheter.
On a besoin de garder des relations commerciales avec les gens qui nous en vendent. Ouais. Sachant qu'on en a un peu chez nous aussi. On a quelques réserves d'uranium.
Et on l'exploite?
Non.
Pourquoi?
C'est une très bonne question. On l'exploite pas probablement parce que la densité de population en France fait que les mines seraient forcément à proximité de lieux d'habitation, ce qui poserait des problèmes de voisinage, de bon voisinage, mais peut-être aussi des problèmes sanitaires que nous interdiraient les normes sanitaires en France.
Alors on va écouter l'extrait d'un documentaire qui est produit par EDF, donc on est de parti pris, on sait de où on parle, qui explique un petit peu comment fonctionne cette fabrication d'électricité mode nucléaire et qui expose des avantages et des inconvénients de ce mode de production.
La production d'électricité d'origine nucléaire génère de la radioactivité et des déchets radioactifs. La sûreté des installations est donc un impératif. Les déchets sont rigoureusement gérés, triés et conditionnés avant d'être stockés de façon sûre. Les centrales nucléaires permettent de produire de très grandes quantités d'électricité et n'émettent pas de gaz à effet de serre. En France, elles sont utilisées en continu pour répondre aux besoins croissants en électricité.
Alors il y a plusieurs choses qui sont importantes a priori dans ce qu'on vient d'entendre. Bon déjà il y a ce mode de production qui est constant et donc dont on a besoin pour pas qu'il y ait de coupure de courant et pour pas qu'on ait de l'électricité que quand il y a du vent ou du soleil. Donc ça de mode de production constant, et quel autre avantage on peut porter au nucléaire?
On a entendu parler des gaz à effet de serre. Alors, dans le contexte de réchauffement climatique dont on a déjà parlé, avoir des moyens de production qui soient décarbonés, c'est-à-dire qui n'émettent pas de CO2, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on va chercher. Et effectivement, l'électronucléaire émet peu de CO2. On n'en émet pas zéro. En fait, il n'y a aucun mode de production qui émet zéro.
Et on n'émet pas zéro parce qu'il faut fabriquer la centrale et puis que c'est du béton, tout ça, ça émet du CO2.
Il faut la fabriquer, il faut la démanteler éventuellement en fin de vie, et il faut assurer le cycle du combustible, c'est-à-dire aller chercher le combustible dans les mines, dont on a déjà parlé, ce qui se fait avec des machines.
Le transport. Donc c'est pas zéro CO2, mais le mode de production, lui, il est. Ça rejette pas de CO2 dans l'atmosphère. Ce qu'on voit sortir de la fumée, qu'on voit sortir des cheminées des centrales, c'est de la vapeur d'eau.
C'est de la vapeur d'eau, tout à fait. Et c'est de la vapeur d'eau qui sert à refroidir le... D'ailleurs, toutes les centrales ne sont pas équipées d'aéro-réfrigérants. C'est le terme qu'on utilise pour les grosses cheminées très, très, très trapues, là. Certaines centrales sont refroidies avec... Si le débit de la rivière est suffisant, ou que c'est en bord de mer, on préfère le refroidir avec tout simplement avec un flux d'eau.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la légende de piranhas qui sont dans la rivière, parce que la rivière est chauffée.
Alors, il y a une légende, il y a dans la Drôme une ferme d'animaux exotiques qui est chauffée avec l'eau. D'animaux qui ont besoin d'avoir de la chaleur et d'être dans un environnement tropical qui est chauffé avec l'eau de la centrale.
Qui a servi donc pour refroidir les réacteurs de la centrale. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on peut prêter au nucléaire?
Alors, on a parlé des gaz à effet de serre, on a parlé du fait que c'était une bonne énergie de base, on a parlé un peu d'indépendance énergétique. Effectivement, on est dépendant d'un flux entrant d'uranium, on va dire. Néanmoins, c'est pas du tout la même dépendance que par exemple le pétrole, puisqu'on a des volumes de matière dont on a besoin pour faire tourner une centrale qui sont beaucoup plus faibles. En gros, avec un volume faible d'uranium, on va faire tourner une centrale pendant, on va faire beaucoup d'électricité, alors qu'avec un volume important de pétrole, on va faire tourner la France pendant plus de temps.
Donc c'est un vrai débat en France, on en entend beaucoup parler, entre autres parce que le nucléaire en France, dans le mix énergétique, représente une énorme part.
Oui, très grande part, donc de l'ordre de 80% à la louche, 75-80%.
Donc 75-80% de l'électricité produite et consommée en France, donc ce qui est pas l'énergie, on l'a déjà vu précédemment, ce qui représente à peu près 35-40% de l'énergie produite et consommée en France. Et par rapport au monde, est-ce que c'est représentatif du mode de production
Absolument pas. Dans le monde, il y a des pays qui sont très nucléarisés, des pays qui ne le sont pas du tout, et dans le monde, on est à peu près à grosse maille, 5% d'énergie d'origine nucléaire.
Et comment ça se fait que nous, on a 70-80% de nucléaire, alors qu'en fait, personne fait ça, quoi?
Alors, mais ça c'est un choix historique, c'est un choix politique qui a été décidé à peu près au moment des chocs pétroliers.
Dans les années 70.
Voilà. En gros, en Europe, historiquement, on avait du charbon qu'on a beaucoup utilisé, et à un moment, ce charbon a été beaucoup moins intéressant du point de vue économique à extraire et à utiliser, et il a fallu faire des conversions massives du système énergétique et faire rentrer des modes de production et des ressources nouvelles. Donc certains ont fait rentrer le pétrole, et nous on a fait rentrer, pour des raisons diverses, on a fait rentrer le nucléaire.
Parce que le nucléaire arrive aussi, sans rentrer dans les détails, avec les recherches nucléaires de l'armée de défense.
Et alors, effectivement, donc en gros, il y a un savoir-faire en termes de matière nucléaire et de radioactivité qui vient quand on veut faire une bombe H ou une bombe A, enfin une bombe A puis ensuite chronologiquement une bombe H. Il faut un certain savoir-faire nucléaire. Quand on veut des sous-marins à propulsion nucléaire, donc on sait qu'ils sont qui sont beaucoup plus autonomes et qui peuvent rester plusieurs semaines sous l'eau, ben, on a besoin d'avoir des générateurs nucléaires, et donc le savoir-faire vient par là, et ensuite on l'adapte au civil. Et voilà, historiquement, la France a une armée qui est militarisée avec des sous-marins nucléaires et un porte-avions nucléaire, au moins, pardon, toujours au moins un porte-avions nucléaire, et donc ça nécessite un savoir-faire nucléaire qui a pu être valorisé de façon civile, valorisé économiquement pour la production d'électricité.
On écoute ce qu'on va parler là des problématiques que pose la question nucléaire. On écoute nos chers amis de C'est pas sorcier qui évoquent une part de l'électricité nucléaire.
Alors il faut savoir que l'électricité produite dans une centrale ne se stocke pas. Elle est directement envoyée sur le réseau par ces lignes haute tension, 400 000 volts. Et puis tu sais, Jamy, les centrales nucléaires, c'est exactement comme les autres centrales thermiques. Pour produire leur électricité, elles utilisent de la vapeur d'eau.
Et en fait, c'est le même principe que la centrale charbon.
C'est le même principe que toutes les centrales thermiques. Il y a tous au fuel, au gaz, au charbon. Il y a même des centrales thermiques solaires. Et c'est exactement le même principe. Ou même des centrales thermiques qui sont chauffées par de la géothermie. On en a une en Guadeloupe à Bouillon, qui sont petites, la Bienheureuse. Et toutes les centrales thermiques fonctionnent exactement sur le même principe que celle de la turbine électrique.
Alors, quel est le problème avec cette électricité nucléaire?
Alors, avec l'électricité nucléaire, il n'y a pas de problème. C'est l'électricité comme toutes les autres. C'est avec le fait qu'on la produise dans des centrales nucléaires. Alors, ça génère un certain nombre de déchets. Ça, c'est la problématique bien connue. Des déchets qui sont des déchets industriels un peu différents des autres déchets, puisqu'ils sont dangereux, ils sont radioactifs, et posent un certain nombre de problèmes sanitaires évidents.
Mais on sait pas s'en occuper, ça. On sait pas déradioactiver ces déchets-là.
Non. Alors, pas massivement, pas industriellement. Pour l'instant, on ne sait pas s'en occuper. C'est des déchets qui posent problème parce que en technologie mature pour les rendre inoffensifs, on n'a rien. Après, c'est des déchets qui sont en quantité limitée.
Mais qu'est-ce que ça représente des déchets nucléaires?
Alors, faut qu'on s'en compte un petit peu. Tous les déchets nucléaires issus de toutes les filières, donc pas que de l'électronucléaire, parce qu'il y a aussi du nucléaire civil qui ne sert pas à faire de l'électricité, notamment qui peut servir à faire de la recherche. Donc, tout confondu, les déchets, ça représente un ordre de grandeur, j'ai pas les chiffres exacts, puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais l'ordre de grandeur, c'est 1 million de mètres cubes, il me semble, actuellement.
Donc, depuis qu'on connaît le nucléaire, donc depuis, disons, les années 50, 60, en 70 ans.
Depuis qu'on le connaît, et moyennant les fuites, quoi, parce qu'il y a des trucs qu'on a perdus, il y a des trucs qu'on a un peu enterrés, qu'on a un peu oubliés, voilà, ce genre de trucs. Moyennant les fuites, c'est 1 million. Ça changerait pas grand chose si on réintégrait tout, ça ferait à peu près ça.
Ouais. Et 1 million, ça représente beaucoup, ou
pas du tout? Eh ben, on pourrait comparer aux déchets ménagers. Alors, donc là, on parle de tout le programme nucléaire, tout confondu, militaire, civil, médical, et industriel. On a quelque chose de l'ordre du million. En prenant les déchets à vie longue, les déchets à vie courte, les déchets faiblement actifs, les déchets très actifs. Et si on compare, par exemple, aux déchets ménagers qu'on fabrique par an, grosso modo, c'est 10 fois moins. Donc, on fabrique 10 fois plus de déchets ménagers par an.
Donc, 10 millions par an, alors qu'on a 1 million depuis 70 ans.
Voilà.
Donc en fait, c'est un faux problème.
C'est pas un faux problème, parce qu'ils ont pas la même dangerosité. Enfin, on compare pas une épluchure avec un crayon de matière fissile. C'est pas du tout la même chose. C'est juste pour les ordres de grandeur. Donc, en gros, un ménage, enfin, tous les ménages français, leurs déchets, ça fait plutôt des dizaines de millions de mètres cubes, à comparer aux millions de mètres cubes de tout le programme nucléaire. Si on prend les déchets tout compris, donc de l'industrie, on est plutôt sur des milliers de tonnes par an. Des milliers de millions.
Donc c'est une aiguille.
C'est juste pour avoir une idée des volumes. faut pas dire que c'est pas un problème, parce que c'est un problème qu'on, c'est des problèmes qui se gèrent différemment. Pour les ordres de grandeur, c'est quand même des ordres de grandeur qui sont gérables. Après, on parle de déchets qui sont sanitairement problématiques. Donc, qu'on ne peut pas forcément tous toucher. Alors, après, il y a des classements. Donc, on a parlé d'un million de mètres cubes. C'est pour tous les déchets tout compris. Quand on prend les déchets à vie longue, en gros, c'est ceux qui seront dangereux pendant, enfin, qui seront actifs pendant plusieurs centaines d'années. On est plutôt de l'ordre de la centaine de milliers de mètres cubes. Et quand on prend les vies longues très dangereux, on est beaucoup moins, on est de l'ordre de 10 000 mètres cubes.
Oui, donc mais ça, on pourrait régler la chose en envoyant ça dans l'espace, par exemple.
Alors, on ne pourrait surtout pas régler la chose en envoyant ça dans l'espace. Il y a plein de façons d'imaginer de régler la chose, parce que là, pour le coup, c'est trop dangereux. Les fusées, il y en a beaucoup trop qui explosent, pour que ce soit quelque chose d'intéressant. Faut pas faire comme ça, et ce serait économiquement, enfin,
pas viable.
On parle de métaux extrêmement denses.
Oui. Très lourd,
voilà. Et quand on connaît le prix de mise en orbite d'un kilogramme de matériaux, c'est pas du tout intéressant d'envoyer des déchets, mais vraiment pas. Et en plus, c'est extrêmement dangereux. Il vaut mieux les garder sous contrôle. Après, il y a plein de façons de penser à.
Alors, on va parler justement de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces déchets, quelles solutions on donne aujourd'hui sur ces déchets, et puis des autres inconvénients du nucléaire. Mais avant, on écoute des spéciales dédicaces pour toi, Anne Sylvestre, Un bateau, mais demain.
Un bateau s'est cassé, Baptiste, nous n'irons plus sur les rochers. Les gens de la côte sont tristes, ils ont le cœur tout arraché. Un bateau s'est cassé, il sombre, bien sûr ce n'est pas le premier, mais avec lui s'approche l'ombre, nous n'irons plus jamais pêcher. Un bateau s'est cassé, Gaël, il vomit des noirs assassins, il tue la mer et avec elle tout ce qui vivait dans son sein. Il endeuille à jamais les plages, il désespère les marins, empoisonne les coquillages et les oiseaux mourront demain. On me dira, reste à ta place, occupe-toi donc des enfants. Avec quoi veut-on qu'on les fasse, ces chansons de vagues et de vent? Avec quoi veut-on qu'on les berce, tous ces enfants désenchantés? Quand je pense à ce qu'on leur laisse, je n'ose plus les regarder. Un bateau s'est cassé, Carole, un bateau empoisonne tout, et les beaux poèmes s'envolent. On vit dans un monde de fous, demain ça en sera un autre, et pourquoi ça s'arrêterait, on se repassera la faute, la belle jambe que ça nous fait. Un bateau s'est cassé, Grégoire, on veut déjà nous rassurer, et pourtant, c'est la mer à boire et puis à en crever. Un bateau, mais demain, Karine, puisqu'un bateau a pu faillir. Demain, ça sera une usine qui sera la mort à venir. On me dira, va tout à terre, mais demain, tout sera foutu. Qu'auront-ils fait de notre terre? Nous n'irons plus, nous n'irons plus. Nous n'irons plus au bois des mômes.
Continuons sur cette question du nucléaire et sur les inconvénients du nucléaire. Donc on a parlé des déchets, on y reviendra tout à l'heure. Mais quels sont les autres inconvénients de cette production d'énergie du nucléaire?
Moi, je pense que le plus évident, c'est le risque sanitaire, le risque d'accident. Mmh.
Mais risque d'accident, bon, évidemment, on pense à Tchernobyl, mais il y a eu d'autres choses.
On a eu un certain nombre d'accidents, parce que, comme à chaque fois qu'on met beaucoup d'énergie au même endroit, de fait, on a beaucoup d'énergie au même endroit. Et donc, c'est quelque chose qui est dangereux.
Et qui est difficilement maîtrisable.
On va pas dire que c'est difficilement maîtrisable, mais que quand on perd la maîtrise sur ce truc-là, on a de fait beaucoup d'énergie au même endroit, et ça peut donner des réactions d'emballement, des choses qu'on maîtrise pas. C'est pas que c'est difficilement maîtrisable, c'est que quand on perd la maîtrise, les conséquences sont importantes. Le risque d'accident est un désavantage. Comment dire autrement? Mais c'est exact. Enfin, il existe aussi pour les barrages, par exemple. On sait qu'il y a des barrages qui se sont effondrés, et que ça fait, des centaines, peut-être même des milliers de morts, suivant où c'est fait. Donc c'est pas quelque chose qui n'existe. Le risque d'accident n'existe pas que pour les centrales nucléaires. Il existe pour beaucoup d'installations industrielles en général.
Il y a un organisme qui s'occupe de contrôler ça et de rendre transparent tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait avec le nucléaire, justement.
Il y a plusieurs organismes qui sont chargés de rendre ça transparent. La question est de savoir s'ils le font bien, s'ils ont l'indépendance suffisante pour le faire, s'ils sont assez nombreux, s'ils ont les moyens. Si tu me permets, je vais pas répondre à cette question, parce que je suis pas sûr d'avoir cette réponse. Néanmoins, les données sont beaucoup plus accessibles qu'il y a quelques années. Et c'est ce qui est plutôt une bonne chose. Et plus généralement, en fait, la question que tu poses à travers ça, c'est, en gros, est-ce qu'un accident est possible demain? Est-ce que ce serait grave?
Voilà. Et est-ce qu'on sera au courant? Et la façon dont tu en parles, en fait, on se dit que derrière, il faut quand même un état, une structure d'organisation de société qui est assez solide et assez stable pour pouvoir gérer ce nucléaire et justement ne pas mettre en danger la population.
Oui, il faut une maîtrise industrielle qui est importante de bout en bout. Il faut pouvoir assurer la maintenance de ces objets, de ces gros objets qui sont les centrales, ce qui n'est pas forcément facile. Il faut pouvoir assurer le démantèlement. On parle de démanteler une centrale, c'est pas quelque chose qui se fait vite. C'est quelque chose qui prend en gros la vie d'un travailleur. Ça prend 50 ans. Donc du coup, c'est quelque chose qui se gère dans le temps. Avoir un programme électronucléaire, c'est un engagement sur du très long terme. Et du coup, la question, c'est une des questions, c'est est-ce qu'on peut tenir cet engagement dans des conditions dans lesquelles l'énergie va se raréfier. Il y a beaucoup de questions qui se posent avec le nucléaire. Il y a des questions sanitaires, la question des déchets. À mon avis, cette question-là est importante. Est-ce qu'on est capable de tenir l'engagement que c'est qu'un programme électronucléaire, y compris la gestion de quand il est fini, c'est-à-dire le poste central, y compris la gestion des déchets dans le temps, on a parlé de centaines d'années, il y a peut-être des façons de gérer ça, par exemple horizontaire, tu as dit ça tout à l'heure, pourquoi pas, il y a peut-être des façons, néanmoins il faut y penser, et il y a aussi la question de est-ce que le modèle de société qui est attaché à ça, c'est-à-dire quelque chose de très centralisé, est celui qu'on veut. Et ça, pour le coup, c'est une question qui est, à mon avis, plus centrale que la question sanitaire, puisque on va dire que les conséquences sanitaires des accidents nucléaires et généralement de l'électronucléaire, ça va paraître un peu cynique ce que je vais dire, sont relativement comparables à celles d'autres industries. Le charbon tue plus à cause des particules. La voiture, tu pousses.
Parce qu'on sait par exemple exactement dire aujourd'hui combien de personnes sont mortes suite à Tchernobyl.
On sait pas le dire exactement, on sait le dire à peu près. On sait faire des fourchettes et on sait comparer des fourchettes.
Et pour un ordre de grandeur par rapport, c'est combien de personnes
Les estimations plutôt hautes aujourd'hui donnent 150 000 personnes mortes prématurément à cause de Tchernobyl.
Depuis 86.
Donc, voilà. Ça compte. Voilà, depuis 86. Et là-dedans, on compte ceux qui sont arrivés sur le chantier et qui sont morts d'irradiation parce que c'était, enfin, qui sont vraiment morts dans des conditions atroces, quelques centaines, voilà. Et ceux qui sont morts, qui ont vu leur espérance de vie raccourcie de quelques années à cause d'un cancer, à cause d'une insuffisance de je ne sais quel organe parce que je suis pas médecin. Donc tout ça, ça compte. 150 000, ça compte plus ça. On sait par exemple qu'en France, la pollution aux particules fines tue quelque chose de cet ordre de grandeur-là par an. C'est à peu près 50 000 personnes. Donc c'est des conséquences sanitaires qui sont terribles, qui sont importantes et puis qui peuvent être vraiment dures à supporter. Hein. Enfin, mourir de la maladie des rayons, c'est une mort horrible. Néanmoins, d'un point de vue purement comptable, c'est quelque chose qu'on peut comparer à d'autres secteurs industriels. Ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne chose, mais ce qui veut dire que c'est quelque chose qui veut dire très exactement ça. quelque chose qu'on peut comparer à d'autres secteurs industriels.
D'accord, donc,
ce qui veut dire même... que les autres secteurs tuent beaucoup aussi. Quoi.
Oui, mais il y a quand même un débat qu'on peut s'éviter, quoi, de dire catastrophe nucléaire, ce serait catastrophe, tout ça. En fait, bon, peut-être ça peut arriver. Si ça arrive, ça sera impressionnant parce que ça va tuer sur le coup des gens et puis après sur des dizaines d'années, il y aura des conséquences. Mais c'est pas pire que de vivre à Paris toute l'année.
Je suis pas sûr que ce soit un débat qui fasse éviter. Je pense vraiment qu'il faut l'avoir en ces termes, c'est-à-dire avec le terme comptable, avec des critères objectifs.
Et du coup, tu parlais de l'État qui gère ça et qui stabilise ça, qui est une donnée qui est importante. Et en fait, quand on fait le choix du nucléaire, on fait le choix de remettre entre les mains de l'État, quel qu'il soit, cette puissance-là.
Et ça peut-être même que ça nécessite un État centralisé pendant longtemps. Oui. Et donc, faut voir si c'est le modèle de société qui est intéressant ou pas.
Et surtout,
voilà, et pour le coup, ça, c'est un débat qu'il faut avoir aussi.
On s'engage sur des dizaines et des dizaines d'années.
Donc on s'engage sur
donc, qu'est-ce que serait la société française dans 100 ans? On sait pas.
Exactement. Et du coup, est-ce qu'on a envie de se poser? C'est vraiment des questions qui se posent et à laquelle je vais pas apporter de réponse.
Et il y a une autre question, quand on parle de stress énergétique, du coup, un manque, par exemple, de pétrole, si ça arrive dans les prochaines années, ce qui est possible, a priori, est-ce que on sait faire tourner une centrale nucléaire si tout d'un coup on n'a plus de pétrole et qu'on n'a plus d'essence à mettre dans les camions et dans ben, est-ce que la centrale est autonome
alors si tout d'un coup on n'a plus de pétrole non
donc ça c'est très dangereux enfin ça fait un peu flipper ça
mais c'est un scénario qui est hautement improbable que tout d'un coup on n'ait plus de pétrole voilà c'est un truc qui n'arrivera pas c'est juste que le pétrole va être moins disponible et qu'il va falloir prioriser les usages
donc on le gardera pour le nucléaire mais plus pour notre voiture pour aller faire des courses à Leclerc
ça peut être une façon de valoriser du pétrole qui peut être plus intéressante enfin, aujourd'hui on saurait pas faire aujourd'hui on n'a pas ce qu'il faut pour faire tourner une centrale nucléaire juste sur des camions électriques quoi on sait pas faire mais ceci dit c'est quelque chose qui ça n'arrivera pas comme ça on aura une contrainte progressive ça peut être rapide mais pas
pas du jour au lendemain.
Voilà. Après-demain, il y aura, même si on bloque toutes les raffineries, après-demain, il n'y aura pas plus de pétrole pour faire tourner les centrales. Donc c'est pas comme ça
que on aura le temps de voir venir et puis à la limite de les éteindre si on se rend compte qu'on n'aura plus.
C'est une question. Moyen de les faire. Disons que c'est une question qu'on a un peu le temps de se poser. Faut se la poser. C'est une question qu'on a un peu le temps de se poser.
On parlait tout à l'heure des déchets et du coup, on a des technologies, a priori, pour recycler ces déchets, voire même pour utiliser les déchets pour s'en servir pour continuer à produire de l'électricité.
Oui. Alors c'est ce qu'on appelle le nucléaire de quatrième génération. Donc l'EPR, c'est en gros les centrales qui fonctionnent aujourd'hui, c'est la génération 2. L'EPR, c'est la génération 3. Alors il n'y a pas beaucoup de différence avec la génération 2. Et il y a des quatrièmes générations qui sont à l'étude, qui ne sont pas matures, et j'insiste là-dessus, il y a eu des prototypes qui ont existé, on sait faire en théorie, un peu en pratique, mais globalement, on n'a jamais construit de mix énergétique basé là-dessus, ça n'existe pas, nulle part dans le monde. Et donc la génération 4, ce sont différents types de réacteurs, il y a plusieurs modalités possibles, qui permettent de réutiliser une partie des déchets, de les faire re-rentrer dans le cycle du combustible, et de les utiliser. Ce qui réglerait en partie le problème des déchets, on va dire des déchets chauds et des déchets d'une partie des déchets de haute activité, donc ceux qui posent vraiment problème. On a eu des expériences en France, on a eu Phoenix et Super Phoenix, il y a eu une expérience au Japon, des expériences en Chine, il me semble, en Allemagne, je ne sais pas s'ils l'ont fait fonctionner. Bon, il y a des expériences un peu partout dans le monde. Globalement, c'est une technologie qui n'est pas encore mature, c'est-à-dire qu'il y a eu des démonstrateurs, mais il n'y a pas eu de filière qui s'est construite dessus. Parce que c'est une technologie qui fait peur, parce que en plus d'avoir du nucléaire qui est dans une cuve sous pression avec de la flotte à 250 degrés, on a un circuit primaire le plus souvent qui est en sodium liquide, ce qui rajoute une surcouche de danger qui fait peur à beaucoup de gens, et peut-être à raison. Néanmoins, c'est une voie de recherche qui existe.
Valentin Vinci, merci. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Comment ça va le monde sur les questions de l'énergie. D'ici là, restez connectés. À bientôt.
Comprenez, on a un problème pour le monde moderne. C'est pas propre au nucléaire. C'est que le monde est devenu tellement compliqué que plus personne ne peut par lui-même comprendre et maîtriser toutes les techniques qui nous entourent. Donc vous en êtes réduit à chaque fois à devoir faire confiance à des tiers.